Hey, I'm Ryan Reynolds.
At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Bonsoir à tous, bienvenue dans l'heure des pros 2 du vendredi. On se retrouve juste après le rappel de l'actualité. Isabelle Piboulot, il est 20h01, bienvenue sur CNews.
Le 80e congrès du Parti Socialiste a débuté à Marseille dans une ambiance délétère après la réélection contestée du premier secrétaire Olivier Faure, qui espère notamment que le PS soit en première ligne dans la bataille contre la réforme des retraites pour montrer l'utilité de la gauche. Le congrès au Palais du Pharo se terminera dimanche. Fermeture des cabinets de médecins libéraux le 14 février, c'est ce qu'annoncent les syndicats. En plus d'un rassemblement devant le Sénat, ils réclament à la première ministre une rallonge budgétaire afin d'éviter un échec des négociations en cours avec l'assurance maladie. Les syndicats dénoncent par ailleurs un budget 2023 bien inférieur à l'inflation. Journée internationale des victimes de l'Holocauste, la chef de la diplomatie française a fustigé les propos consternants de Vladimir Poutine. Une provocation indigne selon Catherine Colonna, qui réagissait à un communiqué du Kremlin. Le président russe a dénoncé la présence, je cite, de néo-nazis en Ukraine contre lesquels se battent les soldats russes.
Et autour de la table de l'heure des pros de ce soir, Véronique Jacquier. Bonsoir, chère Véronique.
Bonsoir.
Bonsoir, Patrick Roger, directeur général de Sud Radio.
Bonsoir.
Bonsoir, cher Patrick. Bonsoir, Frédéric Durand, directeur de l'inspiration politique.
Bonsoir.
Merci d'être là. Merci à Kevin Bossuet de nous honorer de sa
Bonsoir.
Présence. Également professeur d'histoire en région parisienne. On a beaucoup de thèmes importants à évoquer ensemble. Je voudrais juste, en ce début d'émission, qu'on s'arrête à les 2-3 minutes parce que c'est une affaire compliquée et pour l'instant, on dispose de très peu d'éléments, mais on a tous appris avec surprise aujourd'hui cette information. Cher Patrick Roger, Raphaël Dupond-Moretti, 30 ans, fils du garde des Sceaux, Éric Dupond-Moretti, placé en garde à vue pour des soupçons de violence conjugale. Ça s'est passé ce matin à Courchevel, en Savoie. Sa compagne se serait réfugiée chez une voisine du couple après avoir été frappée. Elle a expliqué aux gendarmes avoir reçu des coups de poing, des coups de pied, des coups de sac. L'enquête a été confiée au parquet d'Albertville qui décidera d'éventuelles poursuites à l'issue de la garde à vue. On s'intéresse à la réaction du garde des Sceaux. Qu'on lit ensemble. En tant que père, je suis dévasté, j'ai une pensée pour la victime, chaque violence, quelle qu'elle soit, est intolérable. En tant que ministre, je n'ai cessé de lutter contre les violences faites aux femmes et pour que leurs paroles soient prises en compte. En tant que citoyen, je demande qu'on respecte ma vie familiale, il appartient désormais à la justice de faire son travail, réagit donc le ministre de la Justice. Un commentaire rapide, il n'y a pas énormément de choses à dire évidemment à ce stade de l'enquête. Moi, c'est de l'enquête, pardon, c'est la réaction du ministre qui m'intéresse ce soir, digne de la part du garde des Sceaux. En même temps, j'ai envie de dire, il n'a pas vraiment le choix d'agir de cette façon.
Il n'a pas vraiment le choix, et d'autant que c'est une situation en fait complexe, parce qu'il faut attendre le détail évidemment de ce qui s'est passé précisément dans un contexte tendu. Quoi qu'il en soit, elle a porté plainte, elle est allée, cette jeune femme, se plaindre à la police. Il y a un voisin qui est, une voisine qui est intervenue, bien sûr. Non, ce qui est quand même intéressant, c'est que Éric Dupond-Moretti, ministre de la Justice, lui-même, vous vous souvenez des affaires Quatennens, Bayou, où tout était sorti dans la presse, il avait dénoncé justement une justice qui se faisait sur les réseaux sociaux, et lui, il dénonçait une justice de droit privé.
C'est le fils d'Éric Dupond-Moretti que ça sort aussi rapidement ?
Non, je pense que toute histoire sort aujourd'hui assez rapidement, bien sûr, quelle qu'elle soit. Évidemment, parce que c'est du Éric Dupond-Moretti, ça va encore plus vite, bien sûr, et ça fait la une de la plupart des journaux. Donc, c'est une situation extrêmement délicate pour le ministre à gérer, parce que, bien sûr, il le dit lui-même, il est dévasté par cette affaire. Quand il l'a appris. Et puis, encore une fois, comme ça va très vite, comme on ne connaît pas encore tous les détails, on juge déjà bien souvent, et lui-même, il avait dit, je ne sais pas si vous vous souvenez de ce coup de gueule qu'il avait poussé lors d'une audition au Sénat, après les affaires Quatennens et Bayou, où il voulait que tout ça se règle avant tout devant la justice et pas dans les médias.
Parce que politiquement, ça peut le fragiliser ?
Ça peut le fragiliser, bien sûr, parce que quand vous avez cette affaire, d'un point de vue personnel déjà, et il l'a dit, je voudrais qu'on respecte ma vie familiale, parce que d'un point de vue personnel, vous êtes affecté quand vous avez évidemment ce genre d'affaires et que vous êtes concerné. Et puis d'un point de vue politique, bah oui, parce que vous êtes à la manœuvre. D'autant que, on le sait, il a déjà eu quelques difficultés. Il a une affaire qui est en cours lui-même, tout en étant garde des Sceaux. Donc c'est extrêmement complexe, bien sûr, pour lui-même.
Bon, on verra. Il n'y a pas grand-chose à dire en plus, comme je disais il y a un instant. On verra surtout l'issue de cette garde à vue, l'ouverture ou pas de... Enfin, est-ce que l'enquête suivra un autre cours dans les jours qui viennent ? Est-ce que tout cela sera vérifié ? On aura bien le temps d'en reparler, mais c'était important de rappeler cette information et d'en dire quelques mots. Le dossier des retraites qui nous occupe, là encore, pour longtemps et depuis quelques jours maintenant, peut-être l'une des initiatives les plus étonnante de la mobilisation contre cette réforme des retraites que je voulais vous soumettre, l'opération Mère Solidaire. Ça ne vous a pas échappé non plus, Fabien Roussel, qui a lancé un appel aux agents de la fonction publique pour participer à la journée de mobilisation du 31 janvier. Appel entendu d'ores et déjà à Montreuil, à Paris, où les maires, notamment Anne Hidalgo, donc, ont décidé de fermer leurs portes les jours de la manifestation. Quelles conséquences pour les habitants et surtout, qu'en pense-t-il ? Regardez ce sujet de Clémence Barbier et Jean-Laurent Costantini.
C'est une annonce ô combien symbolique. La municipalité de Montreuil a décidé de fermer la mairie le 31 janvier dès midi pour protester contre la réforme des retraites. Seuls les services d'urgence resteront ouverts, comme ceux liés à l'état civil, au logement ou aux écoles.
Chacun doit apporter sa pierre. La municipalité de Montreuil a décidé d'amener sa pierre à la mobilisation. C'est une fermeture solidaire et combative. Au fond, comme en 1995, il faut à un moment donné dire « c'est possible ».
La mairie de Paris sera elle aussi fermée mardi prochain par solidarité avec la mobilisation. Mais l'annonce de Anne Hidalgo ne réjouit pas tous les Parisiens.
Que des élus de la République décident de fermer une administration, ça me choque.
Il ne faut pas oublier que ces services, ils existent parce qu'on paye tous nos impôts et que grâce à ces impôts, on arrive à avoir des services qui fonctionnent en France.
Je trouve pas ça normal qu'un service public se montre solidaire d'un mouvement politique, en fait.
D'autres municipalités fermeront leurs portes ce mardi. Certaines ne décompteront pas les heures de grève des agents pour leur permettre de participer aux manifestations.
Véronique Jacquier, commentaire. Est-ce qu'un maire a le droit de fermer un service public pour des raisons politiques ?
Alors non, parce qu'il y a atteinte à la neutralité du service public et que le tribunal administratif peut s'emparer du dossier et juger effectivement que ce n'est pas normal de se servir ainsi d'une mairie pour défendre des intérêts partisans. Il y a des mairies qui ont été déjà condamnées de la sorte. En revanche, attention, ce qui n'est pas dit dans le sujet, c'est que
la loi peut empêcher la maire de Paris, par exemple, de fermer mardi.
Alors, Anne Hidalgo, pour une raison simple, c'est que Anne Hidalgo ne s'est pas mise dans l'illégalité, tout simplement parce qu'elle a dit que les services, civil, par exemple, seraient ouverts et que la plupart des services dont les Parisiens avaient besoin resteraient ouverts. Donc, elle a pris soin de ne pas se mettre dans l'illégalité.
Sauf qu'à Paris, il y aura une affiche sur le bâtiment, sur l'hôtel de ville, indiquant mairie solidaire avec le mouvement social. Dans ce cas-là, vous jouer un peu avec la neutralité, pardon.
Bah non, mais évidemment qu'elle n'est pas neutre, mais elle ne se met pas dans l'illégalité par rapport au texte de loi. Donc voilà. En revanche, si elle avait vraiment complètement verrouillé et fermé la mairie, là oui, elle était dans l'illégalité et elle était totalement attaquable.
On va écouter ce qu'en dit le ministre du Travail, Olivier Dussopt.
J'ai un peu le sentiment, pour l'exemple que vous avez cité, que la maire de Paris confond les services municipaux avec une annexe du Parti Socialiste.
Ça pose un problème légal ou démocratique ?
Ça me pose un problème plutôt moral ou politique, dans la mesure où je considère que parmi les Parisiens, toutes celles et ceux qui sont favorables à la réforme, toutes celles et ceux qui n'y sont pas opposés, vont être privés de l'accès des services publics auxquels ils ont droit, du fait de l'engagement politique de la maire de Paris. C'est une vraie question politique en termes de neutralité et de respect des convictions des concitoyens, des administrés, qui pour certains sont opposés, d'autres sont favorables et d'autres observent une forme de neutralité.
Ouais, confondre les services municipaux avec une annexe du Parti Socialiste pour Olivier Dussopt, pour Éric Ciotti, le patron de LR, la mairie de Paris, fermée le 31 janvier, une institution publique a le devoir de rester neutre et d'assurer la continuité de ses services. Anne Hidalgo, une fois de plus, abîme Paris. Kevin Bossuet, réaction.
Oui, non, mais évidemment, moi, si vous voulez, je suis très attaché à la neutralité du service public. Je suis fonctionnaire d'État. Quand je suis dans mes missions, il est évident que c'est normal que je sois neutre. Et j'aimerais, en effet, que Anne Hidalgo veille à ce que c'est les agents de la mairie de Paris soient également dans la neutralité. Et moi, ce qui me choque, c'est que finalement, ce sont les contribuables qui vont payer la manifestation des agents de la mairie de Paris.
Si la mairie est fermée, les fonctionnaires n'ont pas nécessité de faire grève pour manifester ensuite. C'est-à-dire qu'ils continuent à être payés. Très concrètement, la mairie va subventionner la mobilisation sur l'argent du contribuable.
Ce sont les contribuables qui vont en effet payer les agents de la mairie de Paris. C'est juste une honte. Et de manière plus générale, moi je trouve que le débat sur la réforme des retraites doit se faire à l'Assemblée nationale. Ce n'est pas à la rue de gouverner. Ce n'est pas à Madame Hidalgo. Non, mais non, je suis désolé. À un moment donné, il y a eu une élection. Le débat doit avoir lieu à l'Assemblée nationale. Et ce n'est pas à la CGT
de diriger la France. Ce n'est pas à la CGT
de diriger la France. Certes, mais voilà. Mais pour moi, ça me choque énormément.
Sur les mairies, un dernier mot, Frédéric Durand. Ça peut faire reculer le gouvernement, ça, ou c'est vraiment...
Non, je pense que ça changera pas.
De la mobilisation de façade. Ça changera pas un mauvais jeu de mots.
La physionomie. Alors avant, à l'époque, il y a eu des mairies qui étaient engagées dans l'histoire de notre pays. C'est pas du tout une nouveauté. Il y a encore aujourd'hui des mairies qui s'engagent pour de grandes causes, l'Ukraine, etc. Mais moi, je voulais surtout me poser un faux par rapport à ce que dit Kevin Bossuet. Pourquoi? C'est-à-dire, parce que si on dit tout se passe à l'Assemblée et rien qu'à l'Assemblée, ça signifie qu'il faut interdire les manifestations. Parce que non, je dis pas que c'est ce que vous avez dit. Je dis que c'est ce à quoi on aboutit si on suit votre raisonnement. Si on dit tout se passe à l'Assemblée, à ce compte-là, inutile qu'il y ait des autorisations à manifester, inutile que dans la loi et dans notre Constitution ce soit préservé, puisque tout se passe à l'Assemblée. Donc vous voyez bien là qu'il y a, on peut être en désaccord, on peut manifester son désaccord, on doit même manifester son désaccord, et puis heureusement qu'on peut le manifester. Parce que, il y a eu un programme de Macron, il y a eu un certain nombre de choses, mais ça ne veut pas dire qu'on est d'accord sur toutes les modalités, ça ne veut pas dire qu'on est, voilà, que je sache, moi, la réforme des retraites, elle n'était pas présentée comme le texte va l'être là, au moment de la présidentielle, dans le programme
Macron.
Mais
ce qui est intéressant de voir,
c'est... Je rappelle d'ailleurs que Macron avait dit exactement l'inverse, à savoir qu'il serait totalement ridicule de demander aux gens de travailler plus.
Ça, c'était avant.
Oui, c'était avant.
Mais ce qui est intéressant de voir, c'est une forme d'unanimité pour refuser cette réforme et tenter de faire plier le gouvernement. Des modes d'action qui se multiplient. Il y a certes évidemment les mobilisations, les manifestations, mais vous avez l'exemple qu'on vient de citer des mairies fermées. Vous avez ces histoires de blocage également et des menaces de la part de la CGT, des retraites au flambeau qu'on voit dans certaines rues de France là depuis quelques jours. Autre méthode relativement inédite, la gratuité du gaz ou de l'électricité pour des écoles, des hôpitaux. Rétablissement également d'usagers coupés. Les grévistes du secteur de l'énergie ont mené hier plusieurs actions dites Robin des Bois pour intensifier le rapport de force dans la lutte contre cette réforme. Selon la CGT, des actions toute la journée hier. On a vu ça à Lille, à Nantes, à Lyon, à Nice, Marseille, Saint-Nazaire, ailleurs dans le reste de la France. Commentaire Patrick et Véronique, il y a une forme de radicalité qui est en train de poindre dans ce mouvement de contestation avec notamment ces menaces et une partie des politiques qui entrent dans la brèche également, à l'image des maires.
Et encore, nous ne sommes pas au 31, c'est-à-dire mardi prochain, et nous verrons évidemment comment... là, ce sont des actions de menaces, en quelque sorte, à travers celles qui sont menées par la CGT Énergie, notamment, qui basculent donc en tarifs réduits pour un certain nombre, en se disant « on va se faire justice nous-mêmes », etc. Et l'action des mairies, c'est là où ça devient un tout petit peu dangereux. On peut, moi je suis pour le droit de manifester, contrairement à ce que dit Kevin, ça ne se passe pas que à l'Assemblée nationale, ça doit se passer aussi dans la rue, comme ça se passe sur les réseaux sociaux, comme ça se passe dans les cafés, la discussion, et c'est ça la démocratie. En revanche, là qu'on sorte de la neutralité pour mener des actions soit
qu'on
de sabotage,
sorte de la loi aussi,
c'est des actions de sabotage à l'envers en quelque sorte pour la CGT Énergie, ou alors des maires qui ferment. Mais alors où va-t-on dans ces conditions? Il y a beaucoup d'autres établissements qui, dans ces conditions, peuvent fermer en disant qu'ils affichent, qu'ils manifestent eux-mêmes, qu'ils encouragent, pourquoi pas, après tout, sur un plan politique, le personnel de la mairie à manifester, mais qu'ils ferment, parce qu'il y a certaines petites mairies qui vont sans doute fermer beaucoup plus, enfin des mairies de villes moyennes, j'ai vu qu'un peu partout en France, ça avait tendance à essaimer. Là, je pense qu'on franchit quand même une ligne. Quoi.
C'est le terme Robin des Bois, c'est très positif, c'est intelligent, c'est malin de la part des syndicats, parce qu'on se dit, on a envie d'adhérer, évidemment, Robin des Bois.
Mais il y a un côté fantasmatique dans cette appellation Robin des Bois. Depuis quand la CGT fait la justice en France, rend la justice en France? Enfin, franchement,
ça,
vous rappelez que Robin des Bois, il voulait aller couper l'électricité aux milliardaires, donc il y a en plus deux poids, deux mesures. Non, il y a quand même un côté fantasmatique de lutte des classes. qui est absolument désolant. On est en 2023, on en est toujours là, avec des syndicats qui sont toujours contre et en opposition. Et je pense que s'ils pensaient la retraite autrement qu'avec envie, qu'avec du ressentiment, qu'avec quelque chose à ressasser, peut-être serait-il... fer de lance pour que tous ceux qui adhèrent à la CGT vivent plus longtemps.
Parce qu'il y a une radicalité constructive.
Mais non, mais on est dans la
rancœur
en permanence, on est dans le deux poids, deux mesures. Enfin, il n'y a rien de constructif. Moi, c'est ça qui. Évidemment qu'en termes de marketing, Robin des Bois, c'est sympa. Mais il n'y a rien de constructif dans leur démarche, fondamentalement.
Non, mais,
après,
allez,
juste
un petit mot.
Je voudrais juste terminer sur les mairies. Évidemment, je ne suis absolument pas pour la façon dont les mairies, dont certaines mairies, manifestent et prennent en otage les administrés et les citoyens, même si, comme on l'a
après
vu,
les
certains,
services non, mais, sécurité, même
si y a quand même une continuité,
quand même
non, mais il y a une continuité de service public, mais il y a atteinte à la neutralité du service public. Cela dit, moi, je trouve que c'est quand même un sacré cache-misère de la part de la gauche, puisque c'est souvent des mairies de gauche, hein, quand même, qui sont fer de lance dans cette opération.
Et les appels à la désobéissance, ils sont relayés à gauche de la gauche.
Il y a un côté cache-misère dont on n'arrive pas à mobiliser plus que on compte pas grand-chose électoralement. Je vous rappelle que le PS était quand même 4% aux dernières élections présidentielles. Donc il faut que d'une façon ou d'une autre...
Le PS, c'est
1,75.
C'est mieux. C'est Fabien Roussel qui a lancé
l'appel. L'autre,
il faut qu'on garde un pouvoir
de nuisance.
Voilà,
non, mais la belle image de Robin Desbois, je veux bien, mais qu'est-ce que c'est que Robin Desbois? C'est quelqu'un qui vole des
riches pour
donner aux pauvres. Mais il y a quand même un vol à la base, donc c'est parfaitement illégal et c'est parfaitement immoral. Mais c'est quand même ça l'image de Robin Desbois. Et j'aimerais rebondir sur ce qui a été dit. Je ne suis pas contre les manifestations, je ne suis pas contre le droit de grève. Simplement, ce n'est pas à la CGT de remplacer le Parlement, ce n'est pas à la rue de remplacer des députés élus. Et le point final, le mot final, c'est les députés qui doivent le donner. C'est tout ce que je dis. Et il faudrait peut-être penser aussi à la continuité du service public, parce qu'il n'est pas normal que des jours de grève, on soit empêché d'aller travailler. Certes, cette réforme est minoritaire dans l'opinion publique, mais il y a des gens qui sont pour cette réforme et qui ont le droit aussi d'aller travailler.
Ils sont pas nombreux,
c'est la liberté de circuler.
Vous avez 70% de Français, je le rappelle, qui sont contre la réforme des retraites.
Il y en a 30 qui sont pour.
Oui. Il y a une grande majorité de Français qui est contre cette réforme.
Que ce soit le
D'ailleurs, le gouvernement a perdu la bataille du récit pour expliquer le bien fondé. Hein. Frédéric.
Si la question de Kevin Bossuet, c'est que le Parlement ait le dernier mot, il aura toujours le dernier mot. Donc ne vous inquiétez pas, manifestation ou pas, à un moment donné, une loi sera faite ou pas faite, donc il aura le dernier mot. Deuxièmement, moi je pense qu'on fait une confusion depuis un petit moment là, c'est-à-dire que c'est pas la CGT le problème. C'est pas la CGT. La CGT, quand personne ne veut manifester, elle a beau lancer des appels à la grève, il se passe absolument rien ou pratiquement rien. Et c'est lorsque ça répond. Et moi, je vais vous dire,
donc c'est le gouvernement qui est responsable de tout.
Je dis pas que c'est le gouvernement. Je dis juste que ça n'est pas la CGT qui décide que d'un coup il y a 1 million ou 2 millions dans la rue. S'il y en a 200 000, il y en a 200 000.
Elle participe.
Évidemment, c'est son travail que d'organiser les choses. Et heureusement qu'elle est là, parce que au moins ça cadre un certain nombre de choses. Mais moi je pense qu'il y a un thermomètre dans tout ça qu'il faut regarder de près. Moi, c'est ça que je regarde souvent. C'est les villes moyennes. C'est-à-dire que lorsque dans une ville moyenne comme Orléans ou des villes de 50 000, 100 000 habitants, vous avez 10 000, 15 000 personnes dans la rue, ça veut dire que c'est quelque chose qui a vraiment du poids au-delà des métropoles.
Mais la semaine à venir est une vraie semaine test.
Complètement. Et là, ce qui s'est passé lors de la dernière grève, c'est ça. C'est-à-dire que dans des villes moyennes, dans cette France périphérique que décrit Guy-Louis, il y avait beaucoup de monde dans la rue. Et ça, je pense, ça signifie un vrai rejet de cette réforme.
Tout dernier mot là-dessus. L'affaire semble quand même bien mal engagée pour le gouvernement. On a la forme avec les blocages, les grèves, les syndicats. Et puis, il y a le fond avec LR qui semble se prendre de plus en plus de distance.
Oui, parce que
au sein même de Renaissance, certains députés qui se font entendre également.
Alors, au sein de Renaissance, il n'y a que...
Il y a une chance que ça ne passe pas.
Il n'y a que quelques députés. Mais c'est vrai que les LR sont extrêmement divisés. Et d'autant que les LR retournent encore ce week-end sur le terrain et que bien souvent, comme le disait très justement Frédéric, ils voient une population qui n'est pas forcément favorable. Donc même si certains ténors des LR ont appelé à une responsabilité parce qu'eux-mêmes l'avaient proposé dans leur programme, cette réforme de la retraite à 65 ans, aujourd'hui, ils sont un peu divisés et probablement qu'ils vont demander un certain nombre de concessions et on verra si le gouvernement y cédera ou pas.
Bon, rendez-vous mardi pour la journée de grève et puis pendant 2 mois, les débats à l'Assemblée qui seront musclés. Le bras de fer ne fait que commencer. On n'a pas fini d'en parler de cette histoire de réforme des retraites. Hier, on vous a donné, si vous nous suiviez sur CNews, les chiffres des demandes d'asile qui n'ont jamais été aussi grandes dans notre pays. Les flux migratoires à l'origine, on reverra les chiffres tout à l'heure, mais ces flux migratoires qui sont à l'origine de tensions dans la société. Vous avez peut-être entendu parler là aussi de ces histoires à Saint-Brévin. Près de Nantes, l'atmosphère s'envenime autour de l'implantation d'un nouveau centre d'accueil pour demandeurs d'asile. La mairie a même reçu des menaces de mort. Le maire a reçu des menaces de mort. C'est pourtant l'État qui est à l'origine du projet. Les opposants espèrent faire plier les pouvoirs publics, comme à Calac également en Bretagne. Un autre projet d'accueil de migrants a été annulé. Regardez ça avec Jean-Michel Decaze.
Le CADA de Saint-Brévin devrait ouvrir à la fin de l'année. Les opposants espèrent stopper ce projet de centre d'accueil des demandeurs d'asile situé près d'une école. Ils craignent l'agression des enfants par des migrants. Des anti-CADA dopés par l'abandon du centre qui devait être implanté à Calac, en Bretagne.
On peut faire plier le maire dans son... Dans son envie, effectivement, d'imposer comme ça, unilatéralement, je dirais, son projet.
Sauf que c'est l'État qui pilote le projet. Le maire, favorable à l'accueil des migrants, rappelle que le terrain a été vendu à l'unanimité du conseil municipal.
Je ne pense pas que l'État arrêtera ce projet.
Pourquoi ?
Bah, je crois que c'est un projet qui est au niveau national, hein, donc voilà, où il faut multiplier en fait les centres d'accueil pour les demandeurs d'asile. Ils disent qu'ils ont gagné à Calac et qu'ils vont augmenter la pression sur la commune de Saint-Brévin.
Il y a une espèce de mainmise qui a été faite par les partis d'extrême droite. Un certain nombre de parents d'élèves ont reçu des mails à leur adresse personnelle disant que si par exemple leurs enfants allaient se faire violer par des migrants, c'est eux qui seraient responsables.
La commune accueille des migrants depuis 2016 sans qu'aucun incident n'ait été signalé.
Véronique Jacquier. C'est vrai que Emmanuel Macron a annoncé hein, clairement l'ambition de répartir les demandeurs d'asile sur le territoire, notamment dans les zones rurales. C'est tout sauf simple.
Ce n'est pas simple.
Le réel.
Non, mais il faut à minima consulter la population sur un sujet aussi inflammable. On ne parle que de démocratie participative dans ce pays. Et quand il s'agit de consulter localement la population, on n'est même pas foutu de le faire. Donc moi, je comprends qu'une certaine partie de la population demande des comptes et tout au moins se rebelle. Ensuite, mettez-vous à la place des habitants. Bien entendu que quand vous gérez au cas par cas une relation avec un migrant ou un étranger qu'on installe sur le territoire, ça se passe bien, évidemment. Heureusement, tout un chacun est capable d'humanité. Maintenant, on a bien conscience que, parce qu'on a eu des cas précédents, on a eu un cas à Calac, mais on a eu un cas aussi dans une autre municipalité, des parents se sont insurgés parce qu'on voulait mettre un centre de migrants à côté d'une école. Voilà, et là, les parents ont dit, mais on a 80% de jeunes hommes désœuvrés à côté de l'école que va fréquenter mes enfants toute la journée. Donc, mettez-vous à la place des parents. Il y a quand même de vraies questions qui se posent, surtout qu'on a quand même un gouvernement qui fait désormais le lien entre insécurité, immigration, migrants, etc. Et qu'on a un ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, qui a dit cet été qu'il y avait, en plus de toute l'immigration que l'on va détailler dans un instant et des chiffres qui nous parviennent, 700 000 clandestins sur le territoire. Mettez-vous à la place des Français. Il y a une angoisse civilisationnelle à gérer.
Frédéric, avant de marquer une pause, on va reprendre cette discussion juste après. Vous comprenez les inquiétudes que ça engendre dans l'esprit des populations, ces ouvertures de centres qui sont...
Je comprends parfaitement.
Auxquelles ils s'opposent.
Lorsque Emmanuel Macron, qui est finalement le président des métropoles, il n'est pas le président du reste de la France, ce qui l'intéresse, c'est les métropoles. Et comme il voit que, évidemment...
C'est dans le reste de la France qu'il veut envoyer ses demandeurs d'asile. Les
métropoles débordent. D'autant que ça ne tiendra pas, en plus. Donc, évidemment, pourquoi ? Parce que les pôles d'attraction de richesse, ce sont les métropoles. Et comme il ne le président que des métropoles et pas du reste de la France, il se dit ben finalement on va les prendre, on va les éparpiller un peu. D'ailleurs ils ne vont pas rester parce qu'il faut qu'il y ait, comme je vous le dis, création de richesses, etc. Il n'y a que les métropoles. Donc non seulement c'est un coup de pied dans l'eau, mais je comprends parfaitement, plus globalement d'ailleurs, les inquiétudes des Français vis-à-vis de l'immigration. C'est pour ça que je ne comprends pas cette gauche-là qui s'effare dès qu'on leur parle de ça ou on passe pour je ne sais trop quoi. Enfin, quand vous êtes dans un pays où il y a déjà 10 millions de gens qui vivent en dessous du seuil de pauvreté, ces gens-là ils se sentent en concurrence. C'est pas le bobo parisien architecte de la métropole qui lui se sent en concurrence ou qui prend le moindre risque lorsqu'il y a une venue d'immigration. Ce sont les classes populaires. Et donc les classes populaires s'inquiètent.
Ça va, Frédéric ?
Mais très bien. Le libéral est...
Je ne le reconnais pas. Mais vous avez pris une carte à l'air.
C'est pas du tout à droite ce que je dis. Pardonnez-moi, c'est pas du tout de droite.
Non, mais je vous taquine. Je vous taquine. C'est réaliste. Et c'est bien d'entendre quelqu'un. Je vais pas trahir qui que ce soit en disant que vous avez une sensibilité de gauche, Frédéric. Et je trouve que ça fait du bien. C'est rafraîchissant d'entendre un discours lucide comme...
C'est
juste que c'est ce que les gens pensent aujourd'hui. Ouais, et ils pensent que l'État, le premier devoir, c'est d'assurer leur sécurité. Et je vois pas pourquoi la gauche, vous savez, la gauche qui est capable de s'émerveiller de toute la culture qu'elle va voir au bout du monde, est incapable de défendre celle qu'elle a sous les yeux. Donc cette gauche-là, je pense qu'il faut
surtout
pas...
Surtout que cette gauche ne veut pas d'immigration dans leur quartier.
On marque une petite pause, on se retrouve, on finit la discussion. Il y a d'autres thèmes à aborder. La peur de troisième guerre mondiale qui est de plus en plus prégnante chez certains. Et puis on va se faire plaisir. On va se faire plaisir. On va parler de Louis de Funès. C'est l'anniversaire de sa mort et on va se rappeler à son bon souvenir. L'heure des pros 2 qui revient juste après le rappel de l'actualité. Isabelle Piboulot, à tout de suite.
Fusillade près d'une synagogue à Jérusalem-Est. Le bilan provisoire fait état de 7 morts selon la police. Plusieurs blessés sont à déplorer et certains dans un état grave. L'assaillant a été neutralisé après avoir ouvert le feu dans le quartier de Neve Yaakov. Les États-Unis condamnent une attaque épouvantable. En Iran, au moins 55 personnes ont été exécutées depuis le début de l'année. C'est ce qu'indique une ONG de défense des droits humains. Certains pour motifs liés aux manifestations, d'autres pour infractions liées à la drogue. Le recours croissant à la peine de mort vise à répandre la terreur dans le pays. Au moins 107 personnes risquent toujours d'être exécutées en raison des manifestations. Volodymyr Zelensky dénonce l'hypocrisie du Comité international olympique et invite son chef à visiter Barmout, point chaud de la guerre avec la Russie. Le président ukrainien déplore que la neutralité n'existe pas sur le front, faisant référence à l'éventuelle réintégration d'athlètes russes et bélarusses au JO 2024 sous bannière neutre. Si tel était le cas, Kiev pourrait boycotter les Jeux olympiques de Paris.
On est toujours en compagnie de Véronique Jacquet, Kevin Bossuet, Frédéric Durand, Patrick Roger. L'État n'a jamais accordé autant de titres de séjour, plus de 320 000 l'an dernier. La France n'a jamais accueilli autant de demandeurs d'asile, 168 000 personnes prises en charge en 2022. Et dans le même temps, l'État peine toujours autant à expulser les illégaux, ceux qui n'ont pas vocation à rester sur le territoire. Un exemple parmi tant d'autres, dans les Alpes-Maritimes, le nombre de mineurs isolés pris en charge par le département a été multiplié par 28 en 6 ans. Écoutez les explications de Patrick Stefanini qui était sur le plateau de Punchline tout à l'heure.
Il s'est passé que pendant la crise sanitaire, d'une part, les migrants n'ont pas pu se déplacer facilement puisque les pays de l'Union européenne, par exemple, ont fermé leurs frontières. Ils l'ont fait en ordre dispersé, mais ils ont fermé leurs frontières extérieures. Et d'autre part, un certain nombre de services administratifs, et je pense notamment à nos consulats, et dans une moindre mesure aux préfectures, ont été fermés pendant plusieurs mois en 2020, et ensuite n'ont réouvert que progressivement. Donc l'année 2022, les statistiques qui ont été publiées hier, elles traduisent d'abord un effet de rattrapage. Mais il n'en reste pas moins que c'est un record. Je pense que si on remonte sur les 30 ou 40 dernières années, on ne trouvera pas en matière de délivrance de titres de séjour un chiffre aussi important.
Comment on explique cette incurie, Patrick ? Tout est là, pourtant, les chiffres sur la pression migratoire, la volonté des Français de voir les flux régulés, pourtant,
ce que l'on dit, ce que disent certains spécialistes depuis quelques années, c'est que la France a véritablement perdu la main. Elle a perdu la main dans le contrôle de ces flux migratoires. Non seulement parce que aujourd'hui on est dans une immigration de droit et il y a des recours en permanence, que ce soit au niveau national, mais même au niveau européen. Et à chaque fois, et les filières le savent d'ailleurs pertinemment. C'est pour ça qu'elles orientent aussi de plus en plus. Et parce qu'il y a une immigration grandissante. Il y a un exode dans beaucoup de pays, que ce soit l'Algérie, la Tunisie, pour les pays plus proches, le Maroc.
Ce n'est qu'un début. Mais c'est-à-dire que limiter l'immigration dans ce pays aujourd'hui, ça n'est plus possible, tout simplement.
Et non. Et on n'y arrive plus. Et donc, on est submergé, on est dépassé, on n'arrive pas à contrôler véritablement, on n'arrive pas à expulser là où il faudrait parfois expulser. Résultat, et moi, il y a des signes qui sont inquiétants quand même. Et je comprends, et je comprends tout à fait ce que disait tout à l'heure Frédéric Durand, qui est un homme de gauche.
Qualité.
Qui dit, en fait, la gauche doit ouvrir les yeux. Certains n'ont pas ouvert les yeux, et aujourd'hui, ils commencent à l'ouvrir. Un exemple, je vais vous citer un exemple, c'est... puisque ça se passe dans une municipalité socialiste. C'est à Libourne. Libourne, c'est une ville moyenne, pas très loin de Bordeaux. Eh bien, aujourd'hui, à Libourne, on est dépassé par l'insécurité qui règne le soir dans la ville. Résultat, on est en train d'installer des bornes d'appel d'urgence pour que les gens puissent appeler, parce qu'il y a des, il y a des gens qui sont en situation irrégulière, qui traînent, etc., et qui menacent la sécurité de la ville. Quand on en arrive là, c'est assez alarmant. Et donc ça, c'est un maire socialiste qui a pris cette mesure. Mais vous voyez, on n'a pas prévenu, on en est à réparer, à essayer de réparer.
Beaucoup
disent, là, c'est inquiétant.
Beaucoup disent déjà que le projet loi asile et migration, ce sera un coup d'épée dans l'eau, Véronique Jacquier, quand on sait que le projet de loi permet notamment d'obtenir l'asile pour les métiers en tension, c'est une loi qui favorise ou qui limite l'immigration, ce projet de loi, franchement ?
C'est un projet de loi qui ne règle rien.
Est-ce que c'est ce
qu'attend le gouvernement qui veut se donner bonne conscience, voilà.
Limiter les recours sur les OQTF aussi, ça c'est important, mais il restera des recours et ce sera toujours aussi compliqué.
Mais tout à fait. Mais Patrick Roger a bien résumé les choses, et je pense qu'on est en train de perdre une bataille là où des pays sont en train d'avoir un coup d'avance. Il y a quand même une grande bascule qui est en train de se faire au niveau de certains pays européens. Vous avez la Suède qui vient de lancer une grande campagne internationale de sensibilisation contre l'immigration pour dire aux personnes étrangères, restez dans votre pays, nous n'avons plus les moyens de vous accueillir. Mais ils ont déjà mis en place...
Pardon de parler un peu simplement, mais quand vous êtes quand vous crevez la dalle dans un pays, ce sera toujours mieux que l'endroit où vous êtes. Ce sera toujours mieux que l'endroit où vous êtes.
Julien, laissez-moi finir.
Je suis pas sûr que ça...
Pourquoi est-ce que, pardonnez-moi, mais beaucoup de gens du monde entier veulent venir en France? Vous avez l'AME, l'aide médicale d'État.
Ouais.
Vous avez une prise en charge incroyable. Vous avez un coût extraordinaire pour la prise en charge des mineurs isolés. Coût par départ de tement multiplié par 28. Mmh. Ce sont les impôts des Français. Ça va être tenable encore combien de temps? La France est un pays de cocagne. La Suède dit nous ne sommes plus un pays de cocagne parce que nous voulons préserver notre modèle social. Nous ne pouvons plus vous garantir de la générosité. Mais croyez-moi que les étrangers comprennent
le message. Réussir à réduire ses flux migratoires, Danemark qui est gouverné par un gouvernement de gauche.
On
peut le rappeler.
Laissez-moi terminer. Le discours est audible puisque les demandes d'asile ont chuté de moitié au Danemark. Dernière chose, en Irlande, l'Irlande se met aussi à envoyer des messages. Les Irlandais disent nous ne pouvons plus vous accueillir, nous n'avons pas assez de logements. Voilà, je pense que le discours est audible.
Deux dernières prises de parole de ce côté-là de la table. C'est vrai que moi, ce qui m'intéressait, c'est de voir le ministre également hier tweeter, se targuer d'une augmentation de 15% des expulsions, un peu plus de 15 000, sauf qu'on peut regarder de plus près et mettre en perspective les chiffres de Gérald Darmanin qui nous annonce 15 000 et qui se félicite. Eh bien, en 2019, sous Castaner, Christophe Castaner, on a expulsé 23 000 personnes. 23 000. En 2018, avec Gérard Collomb, c'était 19 000. Avec Bernard Cazeneuve, en 2016, c'était plus de 16 000. Donc en fait, tous les prédécesseurs de Gérald Darmanin, ces 6 dernières années, ont fait mieux. Il y a un décalage entre ce discours offensif et la réalité.
Tout cela n'est que de la communication politique. Et ça donne l'idée, finalement, que la France n'est plus souveraine, puisqu'elle n'a plus la maîtrise de ses frontières, et elle n'a donc plus la maîtrise de son territoire et de son destin. On pourrait dire, finalement, on peut agir au niveau européen, mais quand on regarde ceux qui composent la Commission européenne, on voit bien que tous ces gens sont dans une idéologie immigrationniste, dans une idéologie multiculturaliste. Et c'est vrai qu'il y a une fracture de plus en plus entre les peuples qui sont attachés aux racines chrétiennes, qui sont attachés à leur identité, et les élites qui voudraient faire de l'Europe un laboratoire multiculturel. Donc à un moment donné, ce n'est plus possible. On voit les résultats en Europe. On voit en effet que dans les pays du nord de l'Europe, on est en train de revenir sur cette immigration massive, tout simplement parce que ça crée de l'insécurité, mais aussi ça dérègle les comptes sociaux. Ça coûte très cher.
Et sans réformer l'état de droit actuel, on se demande comment on peut changer les choses, Frédéric Durand.
En tout cas, ce qui est certain, c'est que, historiquement, vous savez qui c'est qui va taper sur l'épaule du ministre qui ferait une loi trop difficile en matière d'immigration, c'est le patronat, le MEDEF. Ne rêvez pas, les libéraux dont vous parlez là, qui construisent le droit au nom de ça, c'est pour des raisons économiques qu'ils le construisent de la sorte. Donc arrêtons de nous mentir. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose sur laquelle il faut se questionner, pourquoi un pays, je pourrais en prendre d'autres, mais comme l'Algérie, qui est un pays très riche, en termes de matières premières, n'est qu'un pays rentier, et pourquoi ses habitants sont pauvres alors que le pays est très riche. Donc là, à nouveau, il y a peut-être des choses à faire pour dire si les gens sont trop corrompus, nous les soutenons plus et regardons ce que nous faisons, sans parler d'ingérence.
C'est quelque chose qui nous dépasse, en fait, tout simplement. C'est plus grand que l'échelle de la France.
Et si je peux ajouter, il y a quelque chose qui est assez terrible en parallèle de ça, c'est que les filières clandestines et les réseaux criminels
eux pullulent, bien sûr. Se sont développées de façon et elles sont en train de surfer évidemment sur cette immigration et cette exploitation.
Les migrants, eux, il ne faut pas jeter la pierre aux migrants. Les migrants, eux, ils partent parce qu'ils ont besoin de vivre mieux.
Ça, tout le monde n'a pas les moyens de les accueillir.
Il faut arrêter les appels d'air.
Bon, allez, un thème fort encore après les léopards allemands, les Challenger britanniques, les Abrams américains. La France va-t-elle livrer des chars Leclerc à l'Ukraine? Il s'agit du fer de lance de notre armée de terre, considéré comme l'un des meilleurs blindés au monde. Officiellement, la question n'a pas été tranchée. Nombreux sont ceux qui considèrent que les risques pourraient largement dépasser les bénéfices. Tour de table, là encore. Tiens, Patrick, pour commencer, la France doit-elle franchir ce cap de la livraison de chars lourds, franchir une ligne rouge vis-à-vis de la Russie? Pourquoi?
C'est-à-dire qu'aujourd'hui, à partir du moment où certains pays qui sont des alliés, quoi qu'on en dise, même si il y a la barrière de l'OTAN, l'ont fait à travers les Allemands
et les Américains. C'est le rapport bénéfice-risque, hein, qui nous intéresse.
L'ont fait,
ce soir.
Donc derrière, on ne voit pas pourquoi on n'emboîterait pas le pas. Je ne dis pas qu'il faut le faire, mais alors évidemment, Emmanuel Macron probablement a été très prudent dans ses premières prises de position. Il a dit que on pouvait éventuellement y penser, y réfléchir, bien sûr. Mais pour l'instant, il est quand même assez prudent parce que il voit déjà le pays est fracturé. Pour une autre question qui est celle des retraites, mais sur celle-ci, il y aurait aussi une fracture, elle a déjà commencé, et certains d'ailleurs réclament même un débat au Parlement sur le sujet.
Peut-être avez-vous vu passer également cette pétition, inquiet de l'escalade en cours dans la région. Arnaud Klarsfeld, l'avocat, ouais, a lancé une pétition intitulée « Non à une troisième guerre mondiale pour le Donbass » qui a récolté déjà en à peine 3 jours plus de 10 000 signatures. Il appelle aujourd'hui la France, l'Allemagne, à pousser vers une paix négociée entre les Russes et les Ukrainiens sur la base d'un partage de la région du Donbass qui est, selon ses mots, mi-russe, mi-ukrainienne. Écoutez-le.
Les pays européens n'en veulent pas d'une troisième guerre mondiale. Ils en ont connu deux. Ça a été deux fois un suicide de l'Europe. Il n'y a pas besoin d'un troisième suicide européen et de millions de morts pour une région dont personne ne connaissait même l'existence, qui est moitié russe, moitié ukrainienne. Les deux régimes sont fanatiques. Les Ukrainiens sont tout aussi fanatiques que les Russes. Qui trouve un compromis territorial, c'est quand même pas compliqué, et c'est de la responsabilité des États-Unis et de l'Europe de parvenir à un compromis.
On est quand même très loin du discours dominant ici en Occident. Est-ce que on prend le risque d'une troisième guerre mondiale pour rendre le Donbass à l'Ukraine ?
C'est-à-dire qu'on vit les choses comme si l'Ukraine était déjà membre de l'OTAN, donc il y a déjà un petit côté quand même surréaliste. Où Arnaud Klarsfeld, je trouve, a raison, c'est que la guerre de 14 a commencé par un jeu d'alliance, par un engrenage assez méchant. Et que l'on voit qu'il y a 11 mois, on est parti de l'aide alimentaire, de l'aide humanitaire, à maintenant se demander si on envoie quand même de l'artillerie lourde.
Je rappelle que le président ukrainien, hier, a demandé des avions.
Je pense que c'est une folie, tout simplement parce qu'on n'a absolument aucune garantie que ces armes, qui sont perçues comme des armes défensives, ne deviennent pas des armes offensives. Et alors là, effectivement, on serait entraîné malgré nous dans un conflit. On n'a aucune garantie de la part de l'Ukraine. Et je ne vois pas, enfin, quand on raisonne en termes de guerre, de quelle façon on peut en avoir. Secondo, il faudrait peut-être se souvenir de ce que disait le général de Gaulle, c'est-à-dire ne jamais se laisser embarquer dans un conflit qu'on n'est pas en capacité de maîtriser. Et on voit quand même que c'est ce qui nous pend au nez. Donc on ne peut pas être taxé de suiviste. En tout cas, c'est ce qui est en train d'advenir.
Est-ce qu'on peut aider éternellement l'Ukraine? C'est un conflit coûteux pour nous aussi.
Ah, mais c'est un conflit coûteux, mais je ne vois pas ce que la livraison des chars change, en fait. Qu'on livre
écoutez le porte-parole du Kremlin, vous allez voir ce que ça change.
À partir du moment...
Ça change.
Non, il y a deux frontières.
Mais sur le terrain, ça changerait pas.
Parce que là, en termes de belligérance, il n'y a plus qu'une feuille de papier cigarette.
Mais quand vous regardez l'histoire, quand vous regardez ce qui s'est passé en 1973 entre Israël et les pays arabes, que ce soit le pouvoir soviétique ou que ce soit le pouvoir américain, évidemment qu'ils ont livré des armes. On s'est toujours affronté indirectement à travers certains peuples. Qu'on donne des mitraillettes ou qu'on donne, si vous voulez, des chars, ça ne change rien à partir du moment où on respecte deux frontières, la frontière de l'OTAN et de l'autre côté, évidemment, la frontière entre l'Ukraine et la Russie. Et dernière chose que j'aimerais dire, moi, ce qui me marque quand même beaucoup, c'est que l'Europe n'existe pas. On nous parle d'Europe de la défense. La vérité, c'est que l'Europe de la défense n'existe que dans le giron de l'OTAN. Et si les Allemands envoient aujourd'hui des chars aux Ukrainiens, c'est parce que les Américains les ont précédés. Et c'est ça qui m'inquiète. L'Europe est faible.
Non, juste deux mots, parce qu'on n'a pas le temps. Personne ne revient sur l'idée qu'il y a un agresseur, un agressé. Simplement, il faut que les deux interlocuteurs soient prêts à parler. Moi, ce qui m'effraie là-dedans, parce qu'on est dans une impasse, parce que c'est quoi?
Est-ce que l'un des deux veut vraiment la paix?
C'est une question qu'on peut légitimement se poser. Parce qu'on n'entend plus parler de possibilité même de négociation.
C'est ça qui est
inquiétant. C'est qu'il faut que Zelensky, Poutine, mais que chacun soit prêt à au moins discuter. Sinon, ça signifie quoi? Il y a une impasse. On est dans une impasse, là.
Allez, on finit. Alors là, pour le coup, l'expression chère à notre belle corporation sans transition n'a jamais été aussi à propos. On passe du coq à l'âne. Le 27 janvier 1983, ça vous rappelle peut-être quelque chose, Louis de Funès. Louis de Funès disparaissait après un infarctus à l'âge de 68 ans, 40 ans jour pour jour. Mais ses films sont intemporels. Ils font toujours un carton à la télé. Je ne sais pas si vous avez vu passer ces chiffres. C'est vrai que la rediffusion de ces classiques qui a commencé notamment pendant le confinement, enfin on avait une série de rediffusions pendant le confinement. Alors il faut peut-être s'approcher un peu de votre écran. Mais si vous cumulez tout, là, depuis deux ans, c'est 50 millions de téléspectateurs qui ont vu ou revu des films de Louis de Funès. C'est de l'ordre du patrimoine français. Ce matin, dans l'heure des pros avec Jacques Vendroux, Pascal Praud a eu le bonheur de recevoir le petit-fils de Louis de Funès qui nous parle de son grand-père. Comment il était dans l'intimité? Avant de faire un petit tour de table, écoutez-le.
Pour moi, ce n'est pas les souvenirs que j'entends d'un homme austère, d'un homme dur. J'ai des souvenirs de quelqu'un de timide, de drôle, de touchant, qui était... l'antithèse finalement de ce que je peux entendre souvent à la radio, où c'était quelqu'un de très dur, quelqu'un de très froid, dur, d'autoritaire. Oui, il pouvait avoir ses côtés peut-être dans le boulot, parce que le travail, c'était le travail. Mais lorsqu'il était en famille, lorsqu'on le voyait, il était absolument adorable et charmant.
C'est le plus grand comique français.
Oui. Et puis en plus, je pense que non seulement... Moi, j'avais vu dans une interview avec, je crois que c'était Bourville, où il était d'une modestie, d'une humilité incroyable.
Sur le tournage d'un film,
et donc, on
film,
sentait bien. Et voilà un acteur populaire, c'est-à-dire qu'il a su, sans jamais être tombé dans la vulgarité ou dans des choses comme ça, ce qu'on voit aujourd'hui parfois, malheureusement.
Mais ce qui est fou, c'est que la popularité, 40 ans après sa mort, soit aussi intacte que les films, on les regarde entre générations.
Complètement, voilà. Et c'est vrai, ça, c'est le prototype de l'acteur
c'est
populaire.
Ça. Voilà. Et moi, je le vois auprès de mes élèves, quand vous avez des adolescents.
Les ados aujourd'hui regardent Louis de Funès.
12 ou 13 ans, qui connaissent certaines répliques, qui nous parlent de Louis de Funès, mais on se dit que finalement, Louis de Funès n'est pas vraiment mort. Louis de Funès est immortel. Allez voir sur le réseau social TikTok, utilisé principalement par des adolescents, mais il y a plein d'extraits.
Des imitations.
Notamment par les jeunes. C'est ça qui est incroyable. Et qu'est-ce que c'est drôle? Ça a vieilli très bien et ça continuera à travers les générations à exister. C'est formidable, Louis de Funès.
Vous aimez faire des grimaces à Louis de Funès, vous?
Ma biche, oui, voilà. non, mais c'est vrai qu'il passe les générations. C'est assez incroyable. Et ce qui est remarquable, c'est que finalement, lui qui est la caricature quand même du beauf, parfois du personnage grossier, du patron, etc. Tout ce qui est reproché aujourd'hui et qu'on a du mal à mettre dans les films, lui, il le fait et ça séduit encore toutes les générations. D'un mot aussi, parce qu'on dit c'est l'acteur le plus populaire. Il faut se souvenir, alors nous n'étions pas là, vous rien non plus, moi j'ai vu un peu dans les années 70 qu'il était très critiqué. La critique du cinéma ne l'aimait pas.
Mais comme tous les comédiens populaires.
Comme tous ces comédiens.
Regardez la liste des nominations des Césars, c'est scandaleux. Les films les plus populaires de l'année ne sont pas nommés.
Quand même de ça, il a été critiqué. Et je pense que, moi je l'avais vu dans quelques interviews, où ça l'avait quand même blessé et touché. Et lui qui était réservé, timide, comme le dit son petit-fils, ça c'est vrai.
C'est vrai.
Je pense que...
Parce que l'intelligentsia est souvent plus bête que les
personnes populaires. Véronique, voilà.
Oui,
votre film préféré de Louis de Funès?
Alors écoutez, moi je vais faire un peu de la pub pour ma ville natale où il y a un superbe musée Louis de Funès, c'est à Saint-Raphaël. Et j'ai vu cet été, les pieds dans le sable, écran sur la plage, parce que la ville de Saint-Raphaël fait cette opération chaque été, donc j'invite vraiment les téléspectateurs. Ouais. J'ai vu Les Grandes Vacances, un film qui n'est pas très connu.
Ah très bien, Les Grandes Vacances,
très sympa. Donc j'ai bien aimé ce film-là que je ne connaissais pas. Juste un mot, il y a exactement 40 ans jour pour jour... Ironie du sort, Le Figaro, par exemple, ne célébrait pas franchement Louis de Funès. Et le titre principal, c'était un débat sur la retraite à 60 ans. Voilà, juste une chose
encore. Et ben on va rendre honneur.
Non, mais quelque part, il est jamais mort, Louis de Funès.
Je vous ai prévu, vous savez ce que je vous ai prévu? Un petit blind test, rapidos. Très rapide. Je vous mets 3-4 musiques et vous me dites de quel film elle est issue, parce que ça aussi, c'est le patrimoine. Première?
L'aile ou la cuisse.
Bravo. Un point pour Kevin Bossuet. Deuxième.
Moi, je vais perdre.
Le gendarme s'est trompé.
Oh là là, il est chaud, Kevin. 2-0-0-0.
Ah non,
Kevin,
vous
suivez.
Non, non, non.
Allez, je vous en mets un deux. Allez, un autre, un dernier, avant-dernier.
La soupe au chou.
Voilà, j'ai le geste. Allez, la dernière, Benjamin, s'il vous plaît, les amis.
La folie des grandeurs, non, non. Ah non, 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 celui-ci, non, c'est...
Ouah, soyez sérieux.
Mais comment...
Là, mais c'est
Allez, je vous le donne, c'est Rabbi Jacob.
Rabbi Jacob.
Salomon. Vous êtes juif, je vous garde quand même. Bon,
il y en a un
merci
qui est extraordinaire,
les
qui n'est pas très connu, c'est ni vu ni connu, je ne sais pas si vous l'avez vu.
Par contre, on est en retard.
Un braconnier extraordinaire avec moustache.
Merci à toutes les équipes.
J'ai adoré.
Merci à Benjamin Nau. J'ai pas reçu le petit SMS des équipes en régie, mais je les salue et je remercie toutes les équipes CNews, Technique et à la rédaction. On va vous proposer de passer un très bon week-end et vous dire à lundi pour de nouvelles aventures. Bon week-end sur CNews.